C'est arrivé cette semaine, un invité pour décrypter un événement marquant de la semaine écoulée. Nous avons choisi l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir, ou plutôt la réaction collective qui s'en est suivie. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Sociologue, directeur de recherche au CEVIPOF, merci d'être en ligne avec nous. Après donc des mois d'incitation pour que l'on aille massivement se faire vacciner, le chef de l'État a sévi, vaccination obligatoire pour les soignants, extension du pass sanitaire, résultat, près de 800 000 injections mardi, record battu, et des prises de rendez-vous qui se comptent en millions. Cette réaction massive, Jean Viard, elle dit quoi de nous? Comment vous l'analysez?
Elle dit, si vous voulez, qu'on se rend compte que c'est plus confortable d'être vacciné que de ne pas être vacciné. Alors qu'avant, il y a ceux qui se disaient, au fond, voyez, quand vos parents sont vaccinés, vos grands-parents sont vaccinés, on voit bien des jeunes qui disent, bon, au fond, moi, je risque pas grand-chose et mes anciens non plus, puisqu'ils sont vaccinés. Vous voyez, il y a tous ces groupes-là. Donc moi, j'ai tendance à penser que le président a tapé très fort sur la table, les gens ont sursauté, ce variant, il nous fait tous peur. Vous savez, depuis le début de la pandémie, chaque fois, c'est pareil. Au début, on râle. Ben, honnêtement, c'est ennuyeux de se faire vacciner, d'être confiné et tout. Enfin, ceux qui aiment ça, ça doit être très, très rare. Donc chaque fois, on commence à râler. Et puis après, ben, on se sent protégé par ce qu'on nous propose. Donc on le fait.
Donc en fait, il n'y a que la méthode forte qui marche, en tout cas pour une partie de la population.
Forte, disons la communication puissante, si vous voulez. Le problème, c'est que dans cette affaire, c'est beaucoup une affaire de communication. Quand le président intervient comme ça, c'est une communication massive. On peut difficilement faire plus fort. Je sais pas combien il y avait de millions de gens qui l'ont regardé, mais ça devait être extrêmement important. Moi, je vois d'abord une communication puissante, et j'ai tendance à dire, mais multiplions la communication, battons-nous sur les réseaux sociaux, faisons, vous voyez, dans ma région, j'ai vu des photos absolument délicieuses d'un garçon qui embrassait une charmante fille, il y avait marqué « grâce au vaccin ». Je pense qu'il faut faire de la com ciblée vis-à-vis des populations les plus diverses.
C'est un peu l'illustration également d'une forme d'égoïsme, parce qu'on l'entend dans certains témoignages. On entend des personnes dire bah, « jusqu'ici j'attendais, mais si je peux plus aller au restaurant, alors je vais me faire vacciner ».
Oui, mais c'est vrai que, y compris dans les refus du vaccin, pour moi, c'est en partie l'idée qu'on se vaccine pour les autres. C'est-à-dire que le vaccin, c'est un acte collectif d'une communauté humaine. On sait très bien que le vaccin, la maladie circule par chaîne, on va dire les choses comme ça, et donc il faut couper la chaîne. C'est pas simplement pour soi qu'on le fait. Et c'est vrai que c'est un acte fondamentalement citoyen et civique, on pourrait dire, de se faire vacciner. Et je pense qu'effectivement, de temps en temps, il faut le rappeler dans une société où il y a pas mal de gens qui pensent que leur petite personne domine sur le bien commun.
Jean Viard, vous êtes sociologue. Qui sont les personnes qui se ruent actuellement dans les centres de vaccination, en tout cas depuis l'allocution d'Emmanuel Macron? Quel est leur profil?
Si vous voulez, moi je crois que c'est beaucoup de gens qui attendaient, y compris en se disant bon, la vague, on verra à la rentrée si elle arrive. Puisque l'idée, c'était un peu comme l'année dernière, on allait passer juillet-août pas mal, et puis qu'après, en gros, ils se feraient vacciner après le 15 août en rentrant de vacances. Je crois qu'il y a beaucoup ça comme population. Après, je pense que ça booste les jeunes sur l'idée, effectivement, bar et restaurant, si je peux être un peu pratique. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Et puis on a dans les refus de radicaux, des refus finalement assez politiques, de gens qui viennent souvent de l'univers, on va dire, du RN ou de LFI, qui effectivement, eux, ont une opposition très très politique. Et c'est d'ailleurs relativement amusant, parce qu'au fond, leurs références politiques sont plutôt autoritaires, c'est pas des défenseurs de la liberté. Mais ce qu'ils contestent en réalité, c'est le droit. C'est-à-dire que le président de la République a annoncé quelque chose qui va être voté et qui deviendra le droit de la République. Il ne l'est pas encore. En ce moment, on peut tout à fait protester, mais je crois que c'est le 21 juillet, il y a un vote de l'Assemblée,
c'est mercredi prochain. Oui.
Voilà, l'Assemblée vote. Ensuite, effectivement, c'est le droit pour tous. C'est comme la ceinture de sécurité, comme les 11 vaccins pour les nourrissons. À un moment, ça devient le droit et on doit appliquer le droit. C'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble.
Est-ce qu'il y a aussi une question de classe sociale vis-à-vis de la vaccination?
Oui, non, mais c'est sûr que plus les gens sont diplômés, plus ils sont en général informés, parce qu'ils sont surinformés. Ils lisent de la presse écrite, ils écoutent la radio, etc. Donc il y a un lien entre études, informations, etc. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que les autres ont mal compris, ça veut dire qu'ils s'informent moins, qu'ils sont moins intéressés par la chose publique, qu'ils sont plus loin. On le voit bien dans l'hôpital. On a 94% des médecins qui sont vaccinés, à peu près la moitié des infirmières, et quand on descend dans l'ensemble des personnels de service, on est entre 20 et 30%. Mais c'est simplement, si vous voulez, que c'est là où je dis que les problèmes d'information, il ne faut pas les sous-estimer. Les différents publics n'ont absolument pas le même accès aux médias.
Il y a aussi la question de comment on parle à cette partie de la population. On peut prendre l'exemple de l'abstention régionale. Il n'y a pas eu de sursaut au deuxième tour malgré les nombreux appels en ce sens. On ne s'est plus mobilisé, Jean Viard, on ne s'est plus rassemblé autour des valeurs du vivre ensemble.
On est dans un monde en plein changement. On vit un bouleversement de l'histoire humaine qui est monumental, si vous voulez, qui était déjà en cours avant la pandémie. On voyait bien qu'il y avait des partis populistes, des gens qui votaient plus. On sentait bien que les propositions des partis n'accrochaient pas, il faut dire les choses. Parce qu'on était à la fin d'un cycle né avec la révolution industrielle, où il y a au fond un affrontement capital-travail, etc., dominant. Je ne dis pas qu'il a disparu, dominant. Moi, je pense qu'on est passé dans un autre monde. Cette pandémie nous a profondément blessés dans notre vie intime, mais aussi dans l'aventure collective, parce qu'on s'est rendu compte que le premier lien entre les hommes aujourd'hui, c'est le numérique, c'est plus le pétrole. Et deuxième chose, le grand enjeu, c'est plus le progrès, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. Et tout ça, si vous voulez, cette idée nouvelle de l'écologie et du numérique reconstruit notre imaginaire du monde. Regardez ce qui s'est passé avec l'attaque sur les grandes entreprises, regardez les décisions de la communauté européenne. Jamais on aurait décidé ça sans la pandémie. Donc si vous voulez, on est pris dans une aventure intellectuelle à toute vitesse, et le problème, c'est qu'il va falloir qu'on la vive ensemble et qu'il n'y ait pas trop de séparation entre ceux qui disent « Ah, enfin, on y arrive », et ceux qui disent « Mais c'est quoi cette histoire? Je peux plus rouler en diesel ».
Or, en l'occurrence,
on a un problème de faire commun.
En l'occurrence, ceux qui disent « Ah, enfin, on y arrive », ce sont les personnes éduquées, ce sont les personnes qui n'ont pas trop été affectées par cette crise.
C'est pas une question d'être affecté, si vous voulez. Les grands médecins, par exemple, ont été particulièrement affectés. Non, c'est pas une question d'être affecté. C'est qu'on n'a pas tous été affectés pareil. Il y a eu trois grands groupes, si vous voulez, dans cette pandémie. Je dirais, il y a le monde du care et du service. On va dire les caissières pour faire carte postale, les livreurs et l'hôpital. Mais on voit bien qu'eux, ils ont une demande de revenus supplémentaires. Ils sont mal payés et ils ont souvent une demande de proximité, domicile-travail. Parce qu'au fond, leur rêve, c'est d'avoir le HLM, le logement social à côté de l'hôpital. Il y a un autre groupe qui, en gros, est plutôt content de sortie de pandémie. C'est ce qu'on appelait le monde du travail, l'usine, la paysannerie. On voit bien que là, on va renationaliser ou réopéraliser certaines activités. Et puis reste le monde du télétravail, c'est presque la moitié d'entre nous. On ne peut pas dire, si vous voulez, c'est actuellement, dans la plupart des entreprises, les gens ne rentrent que 3 jours par semaine. Ils ont gagné 2 jours de télétravail à la maison. Ça bouleverse le territoire. Il y a 2,5 millions de Français qui sont en train de déménager. Il y a 1 million de couples qui se sont déjà séparés. Donc on vit un maelstrom de changements qui ne sont pas tous tristes, qui ouvrent notamment en matière de télétravail et de nouvelles perspectives en matière de relocalisation industrielle. Donc il y a une vraie bataille pour les gens du care et du service. Je pense que cela mérite, c'est le moins qu'on puisse dire, des augmentations de salaire. Mais ne faisons pas comme si c'est pas particulièrement les riches. Vous savez, les gens qui ont été les plus heureux, c'est les 63% de Français qui ont un jardin. On oublie toujours que la majorité des Français ont un jardin et que ceux qui habitent en appartement, presque 1 sur 2 accèdent à une résidence. Les 450 000 Parisiens qui sont allés dans leur résidence secondaire, ils n'étaient pas malheureux.
Jean Viard, pour revenir à la vaccination, est-ce que vous sentez une défiance grandissante et qui s'accroît vis-à-vis de nos dirigeants ?
Il y a une crise de confiance dans cette société depuis longtemps. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle a porté les partis populistes, mais la vague populiste, je dis pas qu'elle est terminée, mais elle recule absolument partout, que ce soit aux États-Unis, en Italie, au Brésil, en France. D'habitude, si vous voulez, les gens qui protestaient, ils votaient pour le Rassemblement National, pas forcément tous par adhésion totale, mais c'était leur outil de protestation. Ben là, l'outil de protestation, ça a été l'abstention. Pour dire, écoutez, votre élection ne nous intéresse pas. Je crois que c'est la démocratie française qui vieillit. On a des cadres politiques qu'on n'a pas voulu faire évoluer, on a empilé les niveaux d'élection. Vous savez, plus il y a d'endroits pour voter, moins il y a d'électeurs. À un moment, il faut peut-être revenir sur des vrais débats de fond, comment on supprime un certain nombre de niveaux d'électeurs, comment on se réinterroge sur le fait que les sénateurs ne soient pas liés au territoire, etc. Je crois qu'on a fait un certain nombre d'erreurs, on a suivi trop souvent les opinions publiques sans vraiment débat, et je pense qu'à un moment, il faut des élections plus simples, il faut le même mode électoral partout. Comment vous voulez-vous motiver quand vous votez pour le département pour des couples et pour la région pour des listes shabadabada? Excusez-moi, il fallait quand même, c'était compliqué à comprendre.
Mais on terminera sur ces observations. Merci infiniment, Jean Viard, d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ce que nous sommes, en tout cas certains d'entre nous, en cette période particulière. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « La révolution que l'on attendait est arrivée ». C'est aux nouvelles éditions de l'Aube. Merci à vous.
Merci beaucoup.